Il est 8h à Dakar et en temps universel, 9h ici à Paris. Bonjour à toutes et à tous. Dans 10 minutes, appel sur l'actualité, vos questions à la rédaction et dans 40 minutes, vos témoignages sur les préparatifs des fêtes de fin d'année, Noël, le jour de l'an, réveillon festif ou réveillon de crise. Mais d'abord, c'est le journal. Bonjour Alban Le Prince.
Bonjour Nathalie, bonjour à tous. Au lendemain de la nomination du gouvernement de François Bayrou, les passations continuent aujourd'hui en France. Hier soir, Éric Lombard a pris ses fonctions au ministère de l'économie. Qui est-il ? Réponse dans un instant. Le patriarche latin de Jérusalem aux côtés des chrétiens gazaouis. Il a pu célébrer une messe dans la paroisse de la Sainte Famille à Gaza. Témoignage à suivre. Au sommaire également, les résultats de la présidentielle au Mozambique confirmés hier par le Conseil constitutionnel. Le candidat du parti au pouvoir donné vainqueur, celui de l'opposition promet le chaos. Et puis Pékin dans le viseur de Washington. Les États-Unis lancent une enquête sur les micro-conducteurs chinois. Ils accusent la Chine de pratiques concurrentielles. On y revient dans ce journal. Journée de passation de pouvoir ce mardi en France au lendemain de la nomination du gouvernement de François Bayrou hier soir. Un gouvernement d'expérience pour réconcilier les Français, dit-il, composé de 35 ministres dont 19 restent à leur poste. Parmi les arrivées, il y a celle de deux anciens premiers ministres, Elisabeth Borne à l'éducation ou encore Manuel Valls aux Outre-mer, mais aussi Éric Lombard. Bonjour Altine Lazage.
Bonjour.
Le patron de la Caisse des dépôts a pris ses fonctions hier soir au ministère de l'économie.
Oui, et son nom est peu connu du grand public, mais pas des milieux financiers. Éric Lombard, 66 ans, a fait sa carrière dans le secteur de la banque et des assurances. Il a dirigé pendant 7 ans la Caisse des dépôts et de consignations, considérée comme le bras armé financier de l'État. Cet expert de l'économie a fait un bref passage à gauche en rejoignant comme conseiller entre 1989 et 1993 les cabinets ministériels de Michel Sapin sous la présidence de François Mitterrand. Compatible avec la Macronie, il défend un capitalisme social. À Bercy, Éric Lombard aura la lourde mission de doter la France d'un budget pour 2025 et de redresser les finances publiques dégradées. La France fait partie des mauvais élèves de l'Europe avec un déficit public qui devrait dépasser la barre des 6% du PIB cette année et une dette publique de 3 300 milliards d'euros. Le nouveau locataire de Bercy sera aussi confronté aux plans sociaux en cascade qui frappe la France, ainsi qu'à la crise agricole. Réduire le déficit sans tuer la croissance, sa mission s'avère donc compliquée.
Merci Altine Lazage. Et le budget lancera question le jour du discours de politique générale de François Bayrou le 14 janvier prochain. À la suite duquel il a fait savoir qu'il ne sollicitera pas de vote de confiance de l'Assemblée à cette date. Le Premier ministre ne disposera plus que d'un mois pour qu'un projet de finances soit adopté pour 2025. François Bayrou qui a estimé que le nombre de morts à Mayotte se chiffrerait en dizaines mais pas en milliers 10 jours après le passage du cyclone Chido, alors que le préfet du 101e département français avait pour sa part redouté la semaine dernière plusieurs centaines de victimes pour l'heure. Le bilan fait toujours état de 35 morts. Après les violences commises le mois dernier contre des supporters du Maccabi Tel Aviv aux Pays-Bas, le tribunal d'Amsterdam va rendre aujourd'hui son jugement pour 5 hommes. Certains accusés d'être les auteurs de coups, d'autres pour incitation à la violence dans des groupes de discussion en ligne, à des peines de 1 mois à 2 ans de prison ont été requises. En Israël, un accord va-t-il être trouvé sur les otages ? Question alors que le Premier ministre Benjamin Netanyahou a évoqué hier des avancées. C'est l'une des conditions à un cessez-le-feu dans la bande de Gaza. 96 otages y seraient toujours, dont 34 déclarés morts par l'armée. Israël qui juge décevant les propos du pape qui a dénoncé ce week-end de la cruauté d'une frappe qui a tué 7 enfants selon la défense civile. Et c'est après cette intervention que le patriarche latin de Jérusalem, le cardinal Pizzaballa, a pu célébrer une messe dans la paroisse de la Sainte Famille à Gaza où sont rassemblés les quelques centaines de chrétiens gazaouis. Michel Paul, correspondant de RFI à Jérusalem, a recueilli son témoignage.
« Vous êtes la lumière de notre Église », a affirmé le cardinal Pierre-Baptiste Pizzaballa aux chrétiens de Gaza. Cette seconde visite dans l'enclave palestinienne pour le patriarche latin de Jérusalem, depuis le début de la guerre, lui a apporté, dit-il, de la tristesse, mais aussi une grande consolation.
« What I saw, the destruction Ce que j'ai vu, c'est que la destruction qui était déjà énorme lors de ma visite en mai dernier l'est encore plus maintenant. Les ordures, les égouts, l'hygiène, les odeurs, tout le contexte de la vie est très dur à voir. C'est terrible.
Dans son témoignage, le représentant de l'Église catholique évoque surtout les enfants.
Gaza est toujours full of children.
Gaza est toujours rempli d'enfants, des enfants dans la rue ou ce qui reste des rues. Je veux dire, au milieu de ce ravage, de ces ruines, ils sont pieds nus, dans de piètres conditions. C'est très dur d'un point de vue humain.
Ce soir, le cardinal Pizzaballa va célébrer la messe de minuit à Bethléem. Il appelle les chrétiens du monde entier à venir en pèlerinage en Terre Sainte. Michel Paul, Jérusalem, RFI.
Et Israël Katz, le ministre de la Défense, a reconnu dans la journée que l'armée israélienne avait tué en juillet à Téhéran, en Iran, le chef du Hamas, Ismaël Haniyeh. Il a aussi menacé de décapiter la direction des rebelles houthis du Yémen après le tir dans la nuit de vendredi à samedi d'un missile qui a fait 16 blessés à Tel Aviv. Toujours au Proche-Orient, à Damas, en Syrie, des centaines de chrétiens ont manifesté hier après l'incendie d'un sapin de Noël près de Hama, dans le centre du pays. Des faits attribués à des combattants étrangers djihadistes. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, les chrétiens syriens inquiets. Deux semaines après l'arrivée au pouvoir des rebelles, pour les rassurer, un responsable religieux de HTS a promis de punir les responsables de cet incendie et d'installer un nouvel arbre dès ce matin. Le Mozambique va-t-il un peu plus s'enfoncer dans la crise politique? Le Conseil constitutionnel a confirmé hier la victoire de Daniel Chapo, le candidat du Frelimo, le parti au pouvoir depuis l'indépendance à la présidentielle. De son côté, le principal opposant, Venancio Mondlane, rejette ses résultats et promet le chaos dans un contexte de contestation qui a déjà fait au moins 130 morts, ce qui ne surprend pas Lazaro Mabunda du Centre pour l'intégrité publique, une ONG anticorruption mozambicaine.
C'est ce qui était attendu. Je disais que le Conseil constitutionnel réduirait sûrement les résultats du parti Frelimo et le nombre de voix du candidat du Frelimo et attribuerait ensuite ses voix à l'opposition, mais que le résultat final ne changerait pas, et c'est ce qui est arrivé. Avant la publication des résultats, déjà, le Frelimo avait déclaré que tout type de négociation était possible, mais personne ne croyait que ces négociations pourraient aboutir à des résultats favorables aux partis tels que Podemos ou d'autres partis d'opposition. Je doute que cela puisse produire quoi que ce soit. Il est difficile de prédire ce qui pourrait arriver maintenant, mais on peut s'attendre à ce que nous traversions probablement des jours plus difficiles. Cela dépendra largement de la manière dont l'opposition se mobilisera et de la manière dont le Frelimo appellera ses partis à s'asseoir avec lui et à négocier.
Des propos recueillis par Liliana Henriquez du service lusophone de RFI. À moins d'un mois maintenant du retour de Donald Trump à la Maison-Blanche, ce sera le 20 janvier. Les États-Unis lancent une vaste enquête sur les puces chinoises. Le gouvernement de Joe Biden accuse Pékin de pratiques anticoncurrentielles en subventionnant la production de puces électroniques alors que Washington tente de relancer la fabrication de semi-conducteurs. Résultat, Justine Fontaine, de nouveaux droits de douane pourraient voir le jour.
C'est l'un des rares sujets sur lesquels Joe Biden et Donald Trump sont d'accord, celui d'augmenter les taxes sur les produits chinois importés. L'administration Biden a d'ailleurs déjà prévu d'imposer des droits de douane de 50% sur les puces électroniques venues de Chine à partir du 1er janvier. L'enquête lancée ce lundi ne vise pas les puces les plus innovantes et les plus puissantes, utilisées par exemple pour l'intelligence artificielle. Elle s'attaque plutôt aux semi-conducteurs classiques qu'on trouve à la fois dans les machines à laver, les téléphones ou encore les frigos. Des puces chinoises subventionnées qui sont vendues 30 à 50% moins chères que leurs équivalents fabriqués aux États-Unis, dénonce Washington, qui estime que cela décourage les investissements sur le sol américain dans ce secteur. D'ailleurs, deux tiers des produits électroniques fabriqués par des firmes américaines contiendraient des semi-conducteurs chinois. L'enquête doit durer plusieurs mois et si Donald Trump décide de s'en saisir, cela pourrait mener à une nouvelle hausse des droits de douane sur les puces chinoises. Pékin a rapidement dénoncé dans un communiqué une procédure qu'elle juge protectionniste.
Et Donald Trump avait déjà annoncé qu'il souhaitait taxer à 60% les produits importés de Chine une fois de retour à la Maison-Blanche. Et puis en Corée du Sud, trois semaines après la tentative ratée d'imposer la loi martiale de Yoon Suk-yeol, le président qui a depuis été destitué par le Parlement, le principal parti d'opposition annonce ce matin son intention de faire destituer le Premier ministre et président par intérim. Il lui avait donné jusqu'à aujourd'hui pour promulguer deux lois visant à créer des commissions d'enquête indépendantes spéciales sur le président déchu. Il est 9h09 à Paris, 8h09 en temps universel. On vous retrouve, Nathalie Amar.
Merci Alban Le Prince et bonne journée.
À vous aussi.
À vous. Dans 30 secondes, vous avez la parole sur RFI.